Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Urbania et Capo Diamant. Au programme, mes hacks pour profiter du plein air au Québec sans se ruiner, et pouvoir féminin et de pouvoir en France et en Nouvelle-France. Bonne écoute.
Mes hacks pour profiter du plein air au Québec sans se ruiner. Un texte de Ariane Arpin-Delorme, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. Que vous disposiez d'un budget précaire pour profiter des merveilles de la nature ou non, il ne devrait avoir aucune raison de se priver des bienfaits de pratiquer des activités de plein air. Et pas besoin de vous rendre bien loin pour y accéder. Car rares sont les villes où ne coule aucune rivière et qui ne comptent aucune montagne, parc ou piste cyclable. Priorisez les sites gratuits. Pourquoi ne pas planifier vos sorties en fonction de ce qui se trouve aussi à proximité du site principal de votre activité, surtout si c'est offert gratuitement? Certains sites ou parcs, souvent régionaux et municipaux, offrent encore des accès gratuits à leurs sentiers de randonnée et de vélo, ainsi qu'aux installations près de leurs lacs et de leurs plages. Louer ou essayer avant d'acheter. L'achat de l'équipement nécessaire à la pratique de certaines activités de plein air peut en décourager plusieurs. Si on ajoute les enfants à l'aventure, la facture peut rapidement devenir salée. De plus, l'arrivée de nouveaux sports chaque année rend parfois difficile la prise de décision. La location reste l'un des meilleurs moyens de découvrir le champ d'intérêt de tout le monde avant d'investir. Dans un même ordre d'idées, il est préférable de louer un article que l'on utilise une à deux fois par année plutôt que de l'acheter. Saviez-vous que l'accès aux parcs nationaux de la CEPAC ainsi que la location d'équipements sur ces sites sont gratuits pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial? Ou que certaines entreprises comme Locapac vous facilitent la vie en vous proposant de louer l'équipement de plein air de qualité qui sera nécessaire pour votre activité et ce pour toutes les saisons? Participez à une corvée de nettoyage. Des activités communautaires, festivals ou corvées de nettoyage sont aussi l'occasion de profiter de la nature sans que vous ayez à sortir un sou de sa poche. C'est notamment une opportunité pour rencontrer des gens qui partagent les mêmes idéaux que vous. Vous écoutez mes hacks pour profiter du plein air au Québec sans se ruiner. Un texte de Ariane Arpin-Delorme, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. Devenir membre d'associations de plein air. Les fédérations, associations et clubs sportifs ainsi que les coopératives sont des regroupements qui permettent d'organiser des excursions et expéditions. Ils permettent aussi de profiter de rabais et de pouvoir adhérer à une assurance. Certains ont davantage la mission locale de promouvoir un site, tandis que d'autres visent plutôt à faire connaître un sport en particulier. Vous profitez aussi d'un accès à une foule d'informations utiles, de contacts spécialisés et de formations avec des professionnels qualifiés. Quelques exemples. Rando Québec, Fédération québécoise des sports cyclistes, Vélo Québec Voyage, Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, Fédération québécoise de camping et de caravaning, Canot-Kayak Québec. Profitez des installations municipales. La plupart des municipalités du Québec rendent disponibles à leurs résidents des espaces verts avec installations qui peuvent servir à la pratique d'activités sportives extérieures. En plus de contribuer à diminuer l'empreinte écologique et sauver de l'argent, le plein air de proximité est une excellente façon de mieux connecter avec les membres de votre communauté. Visitez le site Internet de votre ville pour connaître leur emplacement et prendre le temps de les explorer. Se procurer un droit d'accès annuel. en payant un droit annuel pour un site près de chez vous ou bien pour votre parc favori, il est possible de sauver beaucoup. Par exemple, la CEPAC offre l'accès annuel à tous ses parcs nationaux pour $83.49. Après 10 visites dans la même année, vous sauveriez des sous puisqu'un accès quotidien sans passe coûte $9.25. Ou pour seulement un parc national au montant de $46.25. La carte annuelle permet aussi d'économiser, par exemple, sur la location d'équipements. Acheter usagé. Il est préférable d'acheter un équipement de qualité usagé qu'un équipement en rabais qui ne répond pas vraiment à vos besoins ou réalités. Les sites de vente en ligne comme Marketplace ou Kijiji offrent plein de variétés. Considérant que la durée de vie de la majorité de l'équipement de plein air peut être assez longue si le matériel est bien entretenu, acheter usagé, c'est ouvrir la porte à des économies considérables. Les plus gros articles représentent assurément les possibilités d'économies les plus substantielles – vélo, canot, kayak, ski. Et il demeure plus facile d'en vérifier l'état réel. Renseignez-vous préalablement sur la valeur à l'état neuf de l'item avant de négocier et inspectez le bien avant de débourser. Toutefois, les casques et harnais d'escalade devraient être achetés neufs. Emprunter de l'équipement. Il peut être intéressant d'emprunter de l'équipement à un membre de votre famille ou un ami, si vous êtes certain de ne pas vouloir l'acheter. Certes, très abordable, l'emprunt devient une option plus délicate en cas de bris. Il ouvre aussi la porte à l'échange. Je te prête mon vélo et tu me prêtes ton kayak. Si tout est fait dans le respect, c'est une manière de pratiquer plusieurs activités sans avoir à trop investir. Enfin, de plus en plus de gens optent pour l'achat d'équipements communautaires. Un groupe de voisins contribue financièrement à l'achat d'articles de plein air que tout le monde se partage. De belles initiatives à encourager. Pour les familles de la région de Montréal qui ont peu de moyens pour louer des équipements et qui voudraient tout de même profiter du plein air, sachez que GEP, Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, existe. L'organisme à but non lucratif offre aux jeunes et à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature, de l'environnement ainsi qu'en plein air. En favorisant un contact privilégié avec la nature, GEP accroît les attitudes favorables au respect de la biodiversité. La Fondation Bon Départ offre des bourses aux enfants de familles défavorisées, souvent privés d'activités sportives, faute d'argent, pour les aider à payer les frais d'inscription, l'équipement et le transport, notamment pour le hockey. Environ 40 000 enfants québécois sont appuyés chaque année. C'était Mes axes pour profiter du plein air au Québec sans se ruiner. Un texte de Ariane Arpin-Delorme, paru le 21 avril 2023 dans Urbania. Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France. Un texte de Dominique Deslandres, paru dans l'édition 2021, numéro 145 de la revue Cap au Diamant. Quand tu devrois me tuer, je porterai la culotte, comme toutes les femmes de Paris le font, s'exclame l'épouse en tirant vers elle la culotte que tente vainement de retenir son mari. Regardons de plus près cette gravure du XVIIIe siècle intitulée « Ambition de la femme pour parvenir à la maîtrise par la culotte ». Dans le fond de la pièce, devant l'âtre, symbolisant la féminité en devenir, la petite fille qui assiste à la scène fait tomber la vaisselle et s'arrache les cheveux, ce qui indique qu'elle saute un instant les attributs considérés comme traditionnellement féminins. Devant elle, ses parents se menacent l'un l'autre, l'homme avec un gourdin, la femme avec une quenouille. Ces emblèmes de la défense et de la production qui disent la ségrégation sexuelle des domaines masculins et féminins sont ici détournés de leur fonction première, alors que le chien, symbolisant la fidélité, se rue vers l'homme en aboyant, ajoutant au désordre. S'il n'est pas anodin que cette gravure sorte d'un atelier lyonnais dirigé par une femme, Anne Gentoux, graveur en taille douce de 1751 à 1758, il n'en demeure pas moins que, depuis le Moyen Âge, la lutte pour la culotte est un topo des relations conjugales. Ce motif bien connu des mondes à l'envers devait faire rire et réfléchir sur la hiérarchie fondamentale qui régissait alors les rapports humains. Ici, la lutte pour la culotte caricature l'appropriation par les femmes de l'autorité naturelle des hommes, car elle déstabilise l'ordre du monde patriarcal. Or, s'il est une chose qu'indique la constante répétition, au cours des siècles, de telles railleries, c'est bien que le problème persiste. Aussi, souligne-t-elle, dans le creux de ce qu'elle remontre, l'étendue des pouvoirs reconnus très pragmatiquement aux femmes par la société française. Mettre en valeur les pouvoirs féminins. Il semble bien, en effet, que les vituperations misogynes témoignent de l'existence et de l'ampleur des pouvoirs féminins. Ainsi, du point de vue politique, pensons aux polémiques acerbes qui vont jusqu'à la lutte armée, qui mine les 60 ans de régence féminine qu'a connue la France entre 1559 et 1661. De Catherine de Médicis à Anne d'Autriche, les destinées du pays ont été régies par des femmes parce qu'elles étaient femmes et mères de rois, la régence étant le seul cas où la loi salique permettait l'exercice légitime du pouvoir politique féminin. De même, du point de vue social et religieux, les comportements des femmes semblent, dans les faits, s'éloigner de l'assujettissement à la puissance masculine, car à cette époque, elles investissent toutes les sphères de la société, s'employant à reconstruire la France après 40 ans de guerre civile et religieuse et, simultanément, à construire une France nouvelle en Amérique. On l'oublie souvent. Mais à partir de l'édit de Nantes en 1598, se développa en France un véritable féminisme catholique au nom de l'égalité des sexes devant le salut. Ce mouvement de fond prescrivait aux honnêtes femmes la même obligation qu'aux hommes, soit de se rendre utile au public. Ainsi, des deux côtés de l'Atlantique, les femmes de toutes conditions investirent massivement leur argent, leur temps et leur énergie dans ce qui constitue les fondements de la société civile, la bienfaisance, l'éducation, la santé. Des femmes de pouvoir, de la régente Anne d'Autriche, pas si potiche qu'on l'a décrite, à Marie-Madeleine de Vignerode, duchesse d'Aiguillon, bien moins sulfureuse que ne le veut la réputation qu'on lui a faite, jusqu'aux plus humbles dévotes, toute une génération de Françaises exactement contemporaines des Maries de l'Incarnation, Marie-Madeleine de Chauvigny, dite Madame de la Pelleterie, de Jeanne Mance ou de Marguerite Bourgeois, se dévouèrent à relever le royaume et à l'étendre en Amérique. Pour ce faire, elles déployèrent leur réseau en transcendant les classes sociales, apostrophant à l'oral comme à l'écrit tous ceux qui pouvaient aider leur cause et sermonnant ceux qui s'éloignaient du droit chemin de la rédemption. Bref, elles firent entendre leur voix. Et elles étaient partout, puissantes et reconnues comme telles. L'importance de leur pouvoir se lit en effet, à contrario, dans les estampes qui circulèrent à partir des années 1660, qui mettaient en scène Lustucru, un forgeron tantôt raccommodeur des langues des femmes, qui ne savait pas se taire, tantôt carrément opérateur céphalique, qui offrait de reforger et repolir sans faire mal ni douleur les tests de femmes zachariates, bigardes, criardes, diablesses, enragées, fantasques, glorieuses, hargneuses, insupportables, lunatiques, méchantes, noiseuses, obstinées, pigriche, revêche, sotte, têtue, volontaire et qui ont d'autres incommodités. Le tout à prix raisonnable aux riches pour de l'argent et pauvres gratis. Témoignent aussi de ses pouvoirs féminins les railleries contre les précieuses qui, loin d'être ridicules, tentaient alors d'éviter que ne disparaisse des dictionnaires et du langage courant la féminisation des termes de métier et de fonction dont usaient les Français pour parler des autrices, médecine, sculpteresse, peintresse, demanderesse, apothicairesse, trésorière, etc. À ce sujet, remarquons qu'en Nouvelle-France, l'Ursuline Marie de l'Incarnation, pour qui, en grammaire, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, utilise le terme « capitainesse » pour rendre compte du pouvoir des femmes autochtones dans leur société. Aussi, y a-t-il bien lieu de parler de féminisme, puisque ce mouvement puissant d'activisme social, économique, politique et religieux signale une conscience de genre et une connaissance aiguë de l'étendue du champ des possibles qui s'ouvrait aux femmes dès XVIIe et XVIIIe siècles. Partageant un vocabulaire militant fondé sur l'égalité des hommes, ces femmes engagées adoptèrent également la même rhétorique de la faiblesse féminine investie d'une mission divine pour atteindre des objectifs bien concrets. Cette conscience de genre, on la trouve qui s'exprime dans les réseaux atlantiques que les Françaises tissèrent afin d'établir couvents d'éducation, hôpitaux, hospices et orphelinats. Dans les congrégations, ces lieux de sociabilité et d'entraide mutuelle qu'elles fondèrent, la Sainte Famille, la Bonne Mort. Dans la transmission des connaissances, grâce à une sorte d'éducation permanente avant la lettre des filles et des femmes, voire dans les systèmes de surveillance que les femmes maintenaient au lavoir, à l'église, au marché, pour traquer les contrevenantes qu'elles dénonçaient sans pitié. Les femmes faisaient tout cela en transcendant les relations de pouvoir intersexes et intrasexes, les classes sociales, les ethnies, les différents dogmatiques et la géographie. Vous écoutez « Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France », un texte de Dominique Deslandres paru dans l'édition 2021 numéro 145 de la revue « Cap au diamant ». Les racines du féminisme québécois en Nouvelle-France. Le primat de l'inégalité, sur lequel repose à cette époque la société française tout entière, a longtemps servi d'argument pour récuser l'idée même de chercher en Nouvelle-France les racines du féminisme québécois. Impossible de trouver dans la société française, profondément hiérarchisée et patriarcale de la colonie, un mouvement social qui réclame l'égalité des droits. Les documents normatifs comme la « Coutume de Paris » qui émane de la plume éminemment masculine d'hommes d'église, de juristes, de médecins, suinte la misogynie en insistant sur la seconde place réservée aux femmes dans la société française. Des deux côtés de l'Atlantique, le destin d'une femme est toujours lié à celui d'un homme. Fille de l'homme dont elle porte le patronyme ou épouse de l'homme choisi par ses parents afin de devenir mère d'un homme. L'héritier. La mort du mari l'investira d'un pouvoir socio-économique certain et d'une relative liberté dans ses mouvements et dans sa gestion des avoirs familiaux, que les hommes de son clan considéreront cependant de très près, toujours prêts à lui intenter un procès pour mauvaise administration ou dilapidation du patrimoine. Dans un tel contexte, les femmes fortes, de la Nouvelle-France, dont se réclame parfois le féminisme québécois, sont présentées comme des exceptions et même comme des miracles. Mais cet argument de l'exceptionnalisme n'explique pas la place éminente des femmes dans les jeux de pouvoir à l'œuvre dans la colonie, des dynamiques qui demeurent trop souvent ignorées, puisque l'on s'arrête plus souvent aux prescriptions qu'à leur application effective sur le terrain. L'histoire des pouvoirs l'a pourtant démontré. La réalité des femmes d'autrefois est beaucoup plus nuancée que ne le prétend l'énoncé des principes apparemment figés et atemporels qui assujettissaient le féminin au masculin. Les exigences des travaux et des jours et le pragmatisme des usages imposaient des accommodements qui faisaient l'affaire de tous et toutes. C'est ce que révèlent les archives judiciaires et notariales qui éclairent souvent avec moult détails non seulement les interactions entre les sexes, mais encore les pouvoirs exercés par les femmes. On y voit en effet des femmes de tout âge, de toute condition et de toute ethnie faire valoir leurs droits. Dans les procès, elles sont aussi, sinon plus souvent demanderesses que victimes, témoins ou accusées. Ainsi, pour la seule juridiction royale de Montréal, entre 1693 et 1760, 1259 femmes différentes, mariées ou non, religieuses ou laïques, noires, libres ou esclaves, autochtones, libres ou panisses, agissent de leur propre chef dans les 4338 dossiers qui impliquent des femmes sur les 6413 archivés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. D'ailleurs, comme les hommes, les femmes résistent parfois activement, parfois passivement aux prescriptions civiles et religieuses au nom de ce que l'époque considérait comme le gros bon sens des coutumes établies. On pensera aux récidivistes célèbres comme Anne Lamarque, dite la Folleville, cabaretière accusée de vendre de l'alcool aux Amérindiens, Anne Désaunier et sa sœur, contrebandière du Sault Saint-Louis, mais aussi à celle moins connue qui trichait à répétition qu'on retrouve en nombre dans les procès civils. Ainsi, la plongée dans le quotidien d'autrefois que permet l'analyse des archives judiciaires dévoile autant les activités féminines, essentielles à la vie coloniale, que les pouvoirs réels et valorisés qui s'y rattachent. Rappelons que la vaste majorité des femmes travaillaient pour augmenter les revenus de leur famille. Les filles rapportant leur salaire de domestique, de petite main ou de manouvrière à leurs parents. Les épouses apportant au ménage les gains non négligeables de la production textile ou de la vente des produits de la ferme. Par le biais des procurations conférées par leur mari ou leur père, les femmes jouèrent de fait un rôle remarquable dans la vie socio-économique coloniale. Et des deux côtés de l'Atlantique, nombre d'entre elles, filles, mariées ou veuves, se faisaient marchandes ou femmes d'affaires. Ainsi, les femmes jouissaient-elles d'une autonomie certaine ou à tout le moins d'une réelle reconnaissance de leur apport économique. De plus, la presque totalité des hommes d'Ancien Régime ne pouvaient se penser sans femme. Le paysan ne pouvait subsister sans une femme aguerrie aux travaux de la ferme et à la vente dans les marchés. L'artisan ne pouvait s'établir sans épouse ou fille à qui confier finition et vente des objets, administration des finances, gestion du réseau et de la publicité. Le soldat ne pouvait avancer sans l'intendance assurée par les femmes qui suivaient les armées. Or, si l'homme ne pouvait suffire à sa tâche sans femme, la femme survivait la plupart du temps sans l'homme de la famille. Guerre, déplacements saisonniers, maladies, morts ou la force de la nécessité obligeait les femmes à se tirer d'affaires sans hommes en s'appuyant sur un solide réseau de solidarité féminine qui misait sur l'entraide, l'instruction et la transmission. Éduquer les enfants, tenir maison, soigner malades et indigents, porter l'eau, ramasser le bois, entretenir le feu, s'occuper des bestiaux, travailler au champ, au potager, au verger, vendre au marché ou au comptoir, recouvrer dettes et crédits, transmettre nouvelles et rumeurs, organiser les mariages, réunir la famille élargie, entretenir réseau et clientèle, ester en justice, toutes ces tâches dévolues aux femmes témoignent de l'exercice des pouvoirs féminins reconnus par la société. Pourtant, ses pouvoirs ne sont jamais mis en valeur dans nos livres d'histoire, car les travaux dont ils découlent sont considérés comme relevant de la nature féminine, immuable, ahistorique. Répétitifs, non rémunérés, ils sont jugés anachroniquement selon les critères de rentabilité financière et de force physique d'aujourd'hui. Des exemples? À côté des autres travaux domestiques que notre œil moderne juge peu contraignants, car nous oublions l'effort physique et le savoir-faire qu'ils exigeaient à l'époque, les ouvrages réservés aux femmes, tels que le filage, le tissage, le lavage, le ravaudage, la taille, la couture, la broderie, sont négligés par l'histoire de l'économie, alors même qu'à l'époque de la Nouvelle-France, l'industrie des draps demeurait la principale source de richesse. Fondement du proto-capitalisme, elle correspond en effet à l'industrie du pétrole aujourd'hui. Ainsi, le tissage et la broderie, si importants autrefois, si dépréciés aujourd'hui, relevaient de l'industrie du luxe et, surtout, rapportaient gros. Il n'est donc pas étonnant que ce soit une femme, Agathe de Saint-Père, qui ait établi la première manufacture de toile, droguet, serge croisée et couverte de la colonie. De fait, c'est quand les femmes sont arrivées en nombre dans la colonie que cette dernière s'est développée. Aurait-elle seulement survécu s'il avait fallu que les colons se contentent des seuls gains de la traite des fourrures? Observer les faits et gestes des femmes d'autrefois plutôt que tenir compte seulement des prescriptions qui les assujettissaient au masculin permet de mettre au jour les pouvoirs qui étaient reconnus aux femmes par leurs contemporains. Ne constituèrent-ils pas un terreau fertile à l'empowerment subséquent des Québécoises? C'était « Pouvoir féminin et dynamique du pouvoir en France et en Nouvelle-France », un texte de Dominique Deslandre, paru dans l'édition 2021, numéro 145 de la revue Cap au Diamant.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.